Leçon 9. Les 5 langages de l'amour, partie 2. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, les étudiants doivent être en mesure de 1. Comprendre les 5 langages par lesquels l'amour s'exprime. 2. Évoquer les dangers liés à une mauvaise utilisation ou à une négligence de chacun des 5 langages de l'amour. 3. Décrire les avantages d'un réservoir émotionnel plein pour un enfant. 4. Identifier les principaux langages de l'amour des membres de sa famille proche. 5. Énumérer des moyens spécifiques d'exprimer son amour aux membres de la famille dans chacun des 5 langages de l'amour. 6. S'engager à aimer les membres de la famille selon leur langage primaire de l'amour. Introduction. Au cours de la leçon précédente, nous avons abordé la question de l'amour inconditionnel et des sacrifices individuels. Nous avons également appris qu'il existe au moins 5 manières, langages, de faire ce que les autres attendent de nous pour se sentir plus aimés. La plupart des êtres humains perçoivent et expriment naturellement l'amour à travers un ou deux de ces 5 langages. Nous avons étudié les paroles valorisantes et découvert des moyens pratiques de communiquer notre amour aux membres de notre famille. Durant cette leçon, nous allons découvrir les 4 autres langages de l'amour, puis nous mettrons en œuvre des méthodes spécifiques pour démontrer notre amour à nos enfants. Langage de l'amour. 2. Les moments de qualité. Les personnes ayant comme langage primaire de l'amour les moments de qualité se sentent aimées lorsque les autres leur consacrent délibérément du temps. Ces moments sont réservés avec soin pour être ensemble en se concentrant l'un sur l'autre. Ces moments sont consacrés à la convivialité et à la communion. Les moments de qualité ne sont pas le fruit du hasard ou de l'ennui. Si vous êtes dans les embouteillages ou si vous attendez un rendez-vous, vous devez utiliser ce temps à bon escient, mais ce moment n'est généralement pas le même que celui consacré à une communion agréable. Un conjoint ou un enfant peut travailler avec vous sur un projet. Ce moment passé ensemble est précieux, mais il ne répond pas toujours à leur besoin de passer un moment de qualité avec vous. Une conversation ininterrompue constitue l'un des meilleurs moments de qualité. Dans ce type de conversation, chaque personne écoute attentivement l'autre. Chacun élimine les distractions telles que les messages textuels et les appels téléphoniques afin de pouvoir se concentrer sur l'autre personne et sur la discussion. Voici quelques autres moyens de montrer que vous écoutez attentivement. 1. Maintenez le contact visuel. 2. Écoutez attentivement. Réagissez aux propos de votre interlocuteur. Ne vous limitez pas à penser à votre prochaine phrase. Prenez le temps de vérifier que vous comprenez bien les propos et les pensées de votre interlocuteur. Vous pouvez vérifier que vous avez bien compris en utilisant une formule telle que « Si j'ai bien compris, tu as l'impression que… » 3. N'interrompez pas votre interlocuteur. L'auditeur pense souvent avoir compris l'idée du locuteur et s'empresse de l'interrompre pour donner son avis. Ce comportement donne à ce dernier l'impression que l'auditeur n'a pas pris le temps de bien comprendre. 4. Au-delà des faits, prêtez également attention aux sentiments. Comprendre le point de vue d'une autre personne revient à lui montrer que nous lui accordons de l'importance. Écouter une personne attentivement signifie que ses opinions et ses sentiments sont importants pour nous et que cette personne est également importante à nos yeux. Les moments les plus agréables sont ceux uniquement consacrés à la communication, mais d'autres formes de moments de qualité sont également appréciables. Les familles peuvent partager un moment agréable chaque jour à l'heure du repas en se focalisant volontairement sur leurs proches tout en mangeant ensemble. Lire des histoires aux enfants, jouer en famille ou mener une activité récréative sont d'autres moyens de passer des moments de qualité ensemble. Réaliser un projet ou un bricolage ensemble pour se divertir, et non pour l'école, le travail ou le ministère, constitue également un moment de qualité. Lorsqu'une personne est éloignée de sa famille, il est possible de passer un moment de qualité avec elle par téléphone. Les moments de qualité sont des moments réservés, sans distraction, sans hâte, où l'on se focalise l'un sur l'autre et où l'on profite de la compagnie de chacun. Il est préférable de consacrer chaque jour un peu de temps pour passer un moment de qualité avec son conjoint et ses enfants. Lorsqu'on n'y réserve pas du temps. Lorsqu'un conjoint ou un parent est dirigeant dans un ministère, il est encore plus difficile de consacrer du temps aux moments de qualité avec sa famille. Les enfants de pasteurs ont généralement l'impression que tout le monde peut appeler leur père et attirer son attention, et que ce dernier est trop occupé pour prendre le temps de s'occuper d'eux. Ils ont l'impression que le temps consacré à la famille est généralement sacrifié sur l'autel du ministère. Une personne qui exerce un ministère ne peut pas complètement éviter les interruptions, mais elle doit s'efforcer de réserver du temps à sa famille. Dans ce cas, sa famille sera plus à même de comprendre ses obligations régulières et les interruptions supplémentaires inévitables qui surviendront. Une personne désireuse de recevoir de l'amour à travers les moments de qualité se sent moins aimée lorsqu'elle ne parvient pas à passer un moment agréable et attentionné avec sa famille. Elle se sent profondément blessée lorsque ces moments ne sont pas considérés comme une priorité et que les projets visant à consacrer du temps à la famille sont mis de côté en raison d'interruptions. Cette personne éprouve de la peine lorsque sa famille est trop occupée pour passer du temps avec elle. Elle se sent délaissée lorsque les membres de sa famille ne l'écoutent pas avec toute leur attention. Si vous n'accordez pas une attention spéciale à votre conjoint ou à votre enfant, ces derniers risquent de ne pas ressentir l'amour que vous leur portez, même si vous travaillez pour leur bien. Malgré le travail acharné d'un homme pour sa famille, sa femme peut se sentir peu aimée parce qu'il est trop occupé pour passer du temps avec elle. Un jeune garçon est allé voir son père pour lui conter une histoire qu'il avait entendue récemment. Le père lisait un livre, mais il s'est arrêté une minute pour écouter, puis il a repris sa lecture lorsque son fils était au milieu de l'histoire. Le garçon a gardé toute sa vie le souvenir des sentiments qu'il avait éprouvés à ce moment précis. Langage de l'amour 3. Les cadeaux. Les personnes qui ont comme langage primaire de l'amour, la réception de cadeaux, se sentent ne plus aimées lorsque les autres leur offrent un présent qui prouve qu'ils pensent à elles. Seul un cadeau bien pensé peut provoquer un sentiment d'amour chez le récipiendaire. Il doit être sélectionné en tenant compte des intérêts du destinataire. Ces cadeaux ne sont pas forcément axés sur l'utilité ou la nécessité. Les cadeaux d'amour ne sont pas offerts sous prétexte que le donateur n'en voulait plus. Les cadeaux doivent être sélectionnés ou confectionnés à dessein par le donateur. Un cadeau qui permet à quelqu'un de se sentir aimé n'a pas besoin d'être coûteux. Il peut s'agir d'un cadeau occasionnel, comme un repas ou une friandise, ou d'un souvenir visible et durable de la relation avec la personne qui l'a offert. Une personne ayant comme langage primaire de l'amour les cadeaux accorde une importance capitale aux anniversaires et aux fêtes. Les membres de la famille doivent absolument se souvenir de ces journées en offrant un cadeau spécial à cette personne. Cette dernière éprouve une grande peine si elle ne reçoit pas de cadeau lors de ces journées spéciales. Cependant, les cadeaux ne doivent pas se limiter à des journées spéciales. Ils doivent constituer un mode de vie permanent. Le conjoint, le parent ou l'enfant d'une personne ayant pour langage primaire de l'amour, la réception de cadeaux doit prendre l'habitude de chercher des cadeaux qui aideront l'être cher à garder à l'esprit que ses proches pensent à lui et l'aiment. Une épouse dont le langage primaire de l'amour est de recevoir des cadeaux peut se sentir très peu aimée si elle considère que son mari a essayé de réaliser des économies en lui offrant un cadeau jugé nécessaire de toute manière. Elle a peut-être besoin d'un nouveau balai et son mari lui en offre un. Certes, un nouveau balai lui fait du bien, mais ce cadeau ne lui permettra pas de se sentir aimée. Les cadeaux sont importants lorsqu'ils traduisent en la volonté d'une personne de comprendre le récipiendaire et de se soucier de lui. Ils sont précieux lorsqu'ils n'émanent pas d'une nécessité. Un cadeau est remarquable lorsqu'il a exigé de la réflexion, des efforts et de l'argent. Les enfants dont le langage primaire de l'amour est la réception de cadeaux se sentent plus aimés si leur père leur achète une glace que s'ils paient les frais de scolarité, même si les frais de scolarité sont bien plus importants et plus conséquents. Au lieu d'exiger que les membres de votre famille apprécient les cadeaux que vous leur offrez habituellement, trouvez des moyens de leur offrir quelque chose de spécial. Certaines personnes contraignent leurs enfants ou leurs conjoints à les supplier pour obtenir tout ce dont ils ont besoin. Une personne frugale qui effectue rarement des achats pour elle-même aura probablement du mal à se montrer généreuse et à offrir des cadeaux qui lui paraissent inutiles. Elle ne voudra pas que les membres de sa famille espèrent recevoir des cadeaux. Cependant, si cette personne possède un conjoint ou un enfant pour qui les cadeaux sont importants, elle doit s'efforcer de vaincre ce comportement. Elle doit s'efforcer de considérer les cadeaux avec la même vision que ses proches, c'est-à-dire avec la même importance et la même valeur. Lorsque vous offrez des cadeaux, faites-le librement, avec joie. Lisez 2 Corinthiens 9, 6 à 9. Dans ce passage, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à donner généreusement à leurs frères qui sont dans le besoin. À partir de ces versets, identifiez 4 ou 5 facteurs qui motivent la générosité. Comment les principes de ce passage s'appliquent-ils à la générosité au sein de nos familles? Langage de l'amour 4. Les services rendus. Les personnes qui ont comme langage primaire de l'amour les services rendus se sentent plus aimées lorsque les autres leur rendent des services. Les services rendus répondent à des besoins concrets. Il peut s'agir ou non de services que la personne n'est pas en mesure d'assurer elle-même. Le service rendu peut être un geste anodin, comme aller chercher une boisson à quelqu'un ou prendre soin d'une personne malade qui a besoin d'aide. Il peut s'agir d'aider une personne dans le besoin. Dans la plupart des familles, il arrive qu'une personne ait besoin de soins constants pendant une longue période. En raison de l'amour et du dévouement des membres de la famille à l'égard de cette personne, ils accomplissent sans relâche de nombreux gestes pour lui rendre service. Malgré le temps consacré au service rendu, les membres de la famille ne doivent pas oublier de manifester leur amour par d'autres moyens plus significatifs. Notamment, si le langage primaire de l'amour de la personne en question n'est pas celui des services rendus. Certains services relèvent de la routine et peuvent aisément être négligés ou considérés comme naturels. De nombreuses femmes expriment leur amour en faisant la cuisine et le ménage au quotidien. Un homme peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Si vous êtes déjà au service de votre famille au quotidien, vous devez néanmoins chercher des moyens spéciaux de rendre service à un membre de votre famille qui ne partage pas ce langage de l'amour. Lorsqu'une femme ne s'intéresse pas aux besoins mineurs de son mari, elle ne parvient pas à parler ce langage de l'amour. Elle se dit par exemple « Il peut aller se servir un verre d'eau tout seul ». Toutefois, si elle allait lui chercher de l'eau, elle lui exprimerait son amour si particulier. De même, un mari doit exprimer de la considération. Lorsqu'il effectue pour sa femme une tâche qu'elle accomplit habituellement, il honore son rôle et reconnaît que son travail est ardu et important. Un mari peut estimer qu'il travaille déjà suffisamment et qu'il incombe à sa femme de s'occuper de toutes les tâches ménagères. Il peut même estimer qu'elle devrait être plus efficace qu'elle ne l'est. S'il considère que les tâches domestiques sont indignes de lui, il montre qu'il considère les femmes comme des êtres inférieurs dédiés aux tâches subalternes. Les femmes ne sont pas inférieures, et le travail domestique n'est pas une activité moins noble que le travail à l'extérieur de la maison. Un homme peut avoir l'impression de jouer le rôle d'un domestique, inférieur à sa femme, lorsqu'il participe aux tâches ménagères, mais il n'en est rien. S'il se porte volontaire pour aider, il reconnaît la valeur de la tâche et de la personne qui l'aide. Son service honore la personne qui accomplit habituellement la tâche et témoigne de sa reconnaissance à son égard. Sa femme ne le considérera pas comme un domestique, mais comme une personne plus respectable. Si une personne apporte son aide à contre-cœur et avec réticence, elle laisse entendre qu'elle est forcée d'aider. Son service ne communique pas l'amour. Si une personne rend service joyeusement et fournit les meilleurs efforts, elle montre qu'elle choisit librement de servir, car personne ne peut l'obliger à offrir son aide. Ce service joyeux exprime parfaitement l'amour qu'elle porte à son prochain. Il aide également à gagner le respect de la personne aimée. Langage de l'amour. 5. Le contact physique. Les personnes ayant comme langage primaire de l'amour, le contact physique se sentent particulièrement aimées lorsqu'elles reçoivent de la part des membres de leur famille des marques d'affection sous la forme de contact physique. Il existe différentes manières de manifester son affection par le contact physique. Certaines sont appropriées dans certaines relations et dans certains contextes, mais ne le sont pas dans d'autres. En voici quelques exemples. Se prendre dans les bras, passer un bras autour du dos ou de l'épaule de quelqu'un, poser les mains sur les épaules de quelqu'un, tapoter le dos ou l'épaule de quelqu'un, s'asseoir côte à côte, se tenir la main, se donner un baiser, faire un massage du dos, tenir un enfant dans ses bras, défaire ou peigner les cheveux d'un enfant, prodiguer des soins avec tendresse et délicatesse lorsqu'une personne est malade ou souffre d'une autre incapacité physique. Le contact physique peut aussi revêtir une importance particulière pour une personne qui traverse une période difficile. En période de deuil, de souffrance, de solitude ou de dépression, une étreinte peut apporter plus de réconfort que des mots ou des services rendus si la personne en question possède comme langage primaire de l'amour le contact physique. Il est important de continuer à exprimer physiquement votre amour à une personne dont le langage primaire de l'amour est le contact physique, même lorsque cette dernière est malade, dans la mesure du possible. Souvenez-vous que l'amour est inconditionnel et qu'il s'accompagne de sacrifices. Le père cité dans le livre de Luc 15, vint a pris son fils repenti dans ses bras et l'a embrassé, même si son fils était répugnant, sale et détestable à tout point de vue. Le contact physique est un langage de l'amour qui n'est pas nécessairement lié à la sexualité. L'activité sexuelle est une forme de contact. Le désir de toucher et d'être touché peut provoquer un désir sexuel et s'exprimer dans ce cadre, mais l'activité sexuelle seule n'est pas suffisante pour une personne dont le langage primaire de l'amour est le contact physique. Le désir de se sentir aimé par le biais du contact physique peut inciter une personne à se livrer à une activité sexuelle immorale. Il est important que les parents donnent à leur fils et à leur fille suffisamment d'affection physique non sexuelle pour que leurs besoins en matière de contact physique soient comblés. Un enfant qui se sent aimé est plus enclin à résister à la tentation. Les péchés du contact physique. Les personnes pour qui le contact physique constitue un langage primaire de l'amour sont particulièrement affectées par la violence physique. Frapper une personne sous l'effet de la colère, Galates 5, 20, gifler quelqu'un pour l'humilier, Matthieu 5, 39, ou molester un individu par abus d'autorité, Matthieu 24, 48 à 49, sont des actes répréhensibles. Grâce à ces passages bibliques, nous réalisons que les parents n'ont pas le droit de blesser leurs enfants, même sous l'effet de la colère ou de la frustration. Dieu déclare également que les enfants ne doivent pas frapper leurs parents. Exode 21, 15. Une punition physique adéquate, mesurée, administrée aux enfants par les parents avec douceur, Colossiens 3, 20 et 1, dans le but de les corriger et de les enseigner la justice, ne représente pas un péché. Au contraire, il s'agit d'une exigence de Dieu à l'égard des parents qui leur permet de sauver l'âme de leurs enfants. Proverbe 13, 24, Proverbe 19, 18, Proverbe 29, 15, Hébreux 12, 5 à 7. L'immoralité et les abus sexuels, y compris l'inceste, sont des péchés. Lévitique 20, 11 à 12, 14. Identifiez votre langage primaire de l'amour. Les êtres humains ne sont pas toujours conscients de leur langage primaire de l'amour. Ils ne se préoccupent pas toujours de la manière avec laquelle ils expriment le plus souvent leur amour aux autres. De plus, ils ne sont pas nécessairement attentifs aux actes qui leur permettent de se sentir aimés. Prenez un instant pour réfléchir à vos connaissances sur les cinq langages de l'amour. Sujet de réflexion. Quel est le langage de l'amour avec lequel vous exprimez le plus naturellement et le plus souvent votre amour pour les autres? Quels sont vos langages de l'amour primaire et secondaire? Si vous avez du mal à discerner les expressions d'amour qui comptent le plus pour vous, voici quelques questions pour vous aider. Quels sont les aspects de votre vie qui vous rendent heureux? Quels sont vos souvenirs préférés? De quoi vous plaignez-vous, même en silence? Qu'est-ce qui vous blesse? Les cinq langages de l'amour et les enfants. Tout le monde a besoin de recevoir régulièrement des preuves d'amour dans les cinq langages de l'amour, notamment les enfants. Les parents doivent constamment et fréquemment montrer à leurs enfants qu'ils les aiment inconditionnellement afin qu'ils se sentent équilibrés et en bonne santé sur le plan émotionnel. L'amour que les parents manifestent à leurs enfants de diverses manières, plusieurs fois par jour, est comparable à une pluie douce et nourricière qui s'abat sur le cœur de l'enfant. Ne présumez pas que vos enfants connaissent et ressentent votre amour pour eux. Ils doivent fréquemment et assidûment percevoir votre amour dans leur langage primaire de l'amour, ainsi que dans les autres langages de l'amour. Déterminez le langage primaire de l'amour d'un enfant. Gary Chapman et Ross Campbell proposent les idées suivantes pour découvrir le langage primaire de l'amour de votre enfant. Premier. Observez comment votre enfant vous exprime son amour. 2. Observez comment votre enfant exprime son amour aux autres. 3. Soyez attentif aux demandes les plus fréquentes de votre enfant. 4. Remarquez ce dont votre enfant se plaint le plus souvent. 5. Donnez à votre enfant le choix entre deux options. I'm the Doctor, Gary Chapman and Dr. Ross Campbell, The 5 Love Languages of Children, Northfield Publishing, Chicago, 1997, pages 101 to 103. Il ne sera peut-être pas possible de déterminer le langage primaire de l'amour d'un enfant avant l'âge de 5 ans. Remarque spéciale sur les langages de l'amour chez les enfants. Nous n'entrerons pas dans les détails de chaque langage de l'amour, car nous les avons tous abordés précédemment. Nous nous contenterons de noter quelques implications et applications particulières pour démontrer de l'amour aux enfants. Les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes sont particulièrement difficiles à prononcer lorsqu'une personne se comporte mal ou n'obtient pas de bons résultats. Toutefois, si vous parvenez à véhiculer un message sincère et positif, vous motiverez vos enfants et ils pourront plus facilement s'épanouir. Les moments de qualité. Les familles ont tout intérêt à partager au moins un repas par jour et à s'efforcer de passer du temps ensemble durant cette période. Dans les familles nombreuses, on peut facilement omettre de consacrer du temps aux moments de qualité avec chaque enfant. Cependant, consacrer du temps pour passer des moments privilégiés avec chaque enfant lui permettra de ressentir l'amour que vous lui portez. Ces moments passés ensemble lui permettront également de vous confier, en toute sérénité, des sentiments qu'ils hésiteraient à partager devant ses frères et sœurs ou d'autres membres de la famille. Souvent, les enfants réclament soudainement des moments de qualité seuls avec l'un de leurs parents. Parfois, au moment du coucher, l'enfant se montre ouvert et souhaite évoquer un sujet qui lui tient à cœur. Les parents doivent prendre le temps d'écouter leurs enfants durant ces moments. Un enfant peut être confronté à un problème spirituel et désire consulter son père ou sa mère en privé, afin d'obtenir une aide spirituelle. Les parents ont une occasion idéale de conduire leurs enfants à Jésus dans ces circonstances. Durant les moments de qualité que vous passez avec vos enfants, apprenez à leur poser des questions ouvertes qui vous aideront à comprendre leurs idées et leurs sentiments. Les questions ouvertes ne peuvent pas recevoir de réponse sous forme de « oui » ou « non ». Elles n'ont pas de réponse définie. Les questions ouvertes commencent généralement par « pourquoi ?»,« comment ?» ou « quel ?». Elles commencent par des phrases telles que « parle-moi de » ou « que penses-tu de ?». Lorsque votre enfant répond à votre question, écoutez attentivement sa réponse et répondez de manière appropriée. Dans certains cas, vous devrez poser une question complémentaire. Parfois, vous devez apporter des précisions pour vous assurer de bien comprendre sa réponse. Quelquefois, vous devez le conforter dans ses impressions ou ses sentiments. Évitez de donner à l'enfant l'impression d'être interrogé. La conversation doit se dérouler de manière naturelle. Votre attention aidera votre enfant à se sentir écouté, valorisé et aimé. Prendre le temps d'écouter un enfant raconter une histoire contribue également à lui communiquer votre amour d'une manière très significative. La lecture de livres ou d'histoires à un enfant est également un excellent moyen de passer un moment de qualité avec lui. Jouer ensemble ou réaliser un projet amusant ensemble constitue un autre moyen de partager du temps de qualité avec vos enfants. Certains parents n'accordent pas suffisamment de temps à leur enfant. Ils essaient de compenser ce manque en leur offrant des cadeaux. Les cadeaux ne peuvent pas remplacer les moments de qualité. Les enfants ont besoin de passer suffisamment de temps avec leurs parents, peu importe leur langage primaire de l'amour. Aucun cadeau ne remplacera le temps passé avec vos enfants. Les cadeaux. Peu de parents achètent un jouet ou un livre édifiant à leur enfant, car ces objets ne leur semblent pas nécessaires. Pourtant, ils peuvent être utiles au développement de l'enfant, en plus d'être une expression de son amour. Les services rendus. Voici quelques idées pour exprimer votre amour à votre enfant par des services rendus. Préparez son repas préféré pour son anniversaire. Accordez-lui une attention particulière lorsqu'il est malade. Aidez votre enfant à réaliser un projet scolaire. Effectuez des tâches ménagères avec votre enfant et exprimez-lui votre reconnaissance pour son travail. Aidez votre enfant à rendre service à une personne en dehors de votre foyer. Le contact physique. Le contact physique représente le meilleur moyen d'exprimer son amour à un bébé ou à un enfant. Les nourrissons ont des besoins concrets. Par exemple, ils doivent être nourris et leur couche changée, mais ils ont également besoin d'être portés, cajolés, choyés et bercés. Ce doux contact physique leur communique l'amour d'une manière adéquate et est indispensable à leur santé émotionnelle et mentale. Une compétition entre un père et ses fils peut être utilisée pour exprimer de l'amour. En revanche, la compétition ne doit pas provoquer de blessures, de domination, de perte de contrôle ou de colère. Les effets à long terme des actes et des paroles d'un parent. Les parents doivent suivre l'exemple de Dieu dans leurs interactions avec leurs enfants. Dieu s'occupe systématiquement de ses enfants avec un amour parfait, généreux et inconditionnel. Il les discipline, les corrige et les éduque par amour pour eux. Hébreux 12, 5 à 7. Dans le contexte d'une relation père-enfant, Dieu agit dans la vie des chrétiens pour les rendre semblables à lui-même. Hébreux 12, 10 à 11. L'amour des parents pour leurs enfants ne doit pas être fonction du comportement de ces derniers. Certes, les récompenses ou les sanctions pour le comportement de l'enfant font partie intégrante de son éducation, mais l'affection ne doit pas s'accorder ou se refuser en fonction du comportement de l'enfant. Si un enfant bénéficie en permanence de l'amour inconditionnel de ses parents, il lui sera plus facile d'accepter et de se fier à l'amour que Dieu lui porte. Cependant, les enfants maltraités ou négligés ont plus de mal à comprendre l'amour de Dieu et à lui faire confiance, même après avoir grandi. L'idée que les enfants se font d'eux-mêmes, notamment de leur statut en tant qu'êtres humains, dépend généralement de ce qu'ils écoutent et perçoivent auprès des autres. Les actes et les paroles de leurs parents ont le plus d'influence, mais les membres de la famille et les amis ont également un impact significatif. L'idée que les enfants se font d'eux-mêmes dépend en partie de l'amour qu'ils reçoivent et dont ils ont besoin. Lorsque les enfants sont privés d'amour ou qu'ils subissent des violences émotionnelles ou physiques, leur estime de soi est affectée et se répercute sur l'ensemble de leur vie. Les paroles des parents influencent l'image que les enfants ont d'eux-mêmes. Par exemple, les paroles valorisantes « Je suis fier de toi parce que tu travailles si dur. Je sais que tu peux y arriver. » Ces paroles permettent à l'enfant de comprendre la valeur de l'effort et de réaliser qu'il est capable d'atteindre ses objectifs. Les paroles destructrices « Tu es si paresseux. Tu n'es pas fiable. » Ces paroles peuvent amener un enfant à penser qu'il est incapable de changer, qu'il est inutile d'essayer de changer ou de gagner votre respect, car vous avez déjà renoncé à lui. L'enfant risque de penser que vous l'avez rejeté. Les paroles valorisantes ? Ne t'inquiète pas, nous faisons tous des erreurs de temps en temps et nous nous améliorons ensuite la fois suivante. Cette phrase permet à l'enfant de comprendre que l'erreur est possible et que votre amour pour lui ne dépend pas de ses performances. Les enfants comprennent également qu'ils doivent progresser. Ils ont intérêt à continuer d'essayer. Les paroles destructrices. Tu es tellement stupide, tu te trompes tout le temps. Cette phrase peut amener un enfant à conclure qu'il est inutile d'essayer. Les enfants peuvent facilement penser que leur valeur dépend d'une performance idéale et puisqu'ils se trompent sans cesse, ils sont incapables du moindre mérite. Ils ne seront jamais dignes d'être aimés par vous ou par quelqu'un d'autre. L'idée qu'un enfant se fait de lui-même en tant qu'être humain dépend de l'amour qu'on lui exprime ou qu'on lui refuse. La relation de l'enfant avec ses parents développe ou entrave sa capacité à établir des relations saines avec son entourage. Un enfant qui reçoit suffisamment d'amour peut apprendre à aimer d'autres personnes avec un amour inconditionnel et généreux. Il dispose également d'un réservoir d'amour dans lequel il peut se ressourcer. Le véritable amour est un carburant émotionnel pour les enfants, au même titre que pour les adultes. Les avantages d'un réservoir émotionnel plein. Les bienfaits d'un réservoir émotionnel plein sont nombreux pour les enfants. Les enfants qui reçoivent suffisamment d'amour ont la force et la stabilité dont ils ont besoin pour relever les défis et se développer convenablement. Les enfants qui reçoivent un amour inconditionnel éprouvent une certaine sécurité émotionnelle. Par conséquent, ils sont plus disposés à accepter la sanction, la correction et les conseils de leurs parents qu'ils ne le seraient dans d'autres circonstances. Ils sont également plus aptes à résister à la tentation causée par la pression des pairs, car ils ont confiance en eux et n'ont pas besoin de prouver leur valeur aux autres. Une jeune fille qui flirte régulièrement avec des garçons peut agir ainsi par crainte d'être ignorée ou négligée par ces derniers si elle ne se comporte pas de la sorte. La timidité d'une fille à l'égard des garçons peut s'expliquer par la crainte d'être rejetée si elle révèle sa véritable personnalité. Une fille qui reçoit le soutien et l'affection de son père est plus à même d'être en relation avec les garçons de manière saine, sans flirt ni timidité. Elle assume son identité grâce à l'amour de son père. Un amour parental sincère et inconditionnel, exprimé fréquemment à travers les 5 langages de l'amour, permet de préserver les enfants d'un grand danger. Les enfants qui reçoivent suffisamment d'amour ne cherchent généralement pas l'amour et la sécurité auprès d'autres personnes qui peuvent s'en servir pour leur faire du mal. En résumé, un réservoir émotionnel bien rempli présente de nombreux avantages pour un enfant. Une bonne compréhension de sa valeur et de la source de cette valeur. Une bonne compréhension de l'effort, de l'erreur, de la croissance et de l'amour inconditionnel. La capacité d'apprendre à aimer les autres. La force et la stabilité nécessaires pour relever les défis et progresser correctement. La sécurité émotionnelle. La capacité d'accepter la discipline, la correction et l'orientation. La capacité de rejeter l'influence néfaste des pairs. Une protection contre la vulnérabilité aux abus dans les relations futures. Les inconvénients d'un réservoir émotionnel vide. Les enfants qui éprouvent un manque d'amour sont susceptibles de rejeter les conseils de leurs parents, faute de motivation pour plaire à ces derniers. Sans un réservoir émotionnel plein, de nombreux enfants ne parviennent pas à établir un lien de loyauté solide et positif avec le parent qui essaie de les guider. Les enfants dont le réservoir émotionnel est vide sont bien plus vulnérables aux abus que les enfants qui entretiennent des relations saines et affectueuses avec les membres de leur famille. Ne se sentant pas aimés, ils risquent de rechercher l'amour auprès de personnes qui peuvent les utiliser ou leur faire du mal. Les caractéristiques des familles soudées. Au cours de ces leçons, nous avons examiné les 5 principaux langages de l'amour. Même si chaque individu possède généralement 1 ou 2 langages de l'amour, chaque personne a besoin de recevoir régulièrement de l'amour dans les 5 langages. Une famille saine repose sur les relations quotidiennes qui existent entre les membres de la famille, notamment des paroles valorisantes, des moments de qualité, des services rendus et des gestes affectueux. S'offrir des cadeaux les uns aux autres n'est peut-être pas une pratique quotidienne, mais constitue néanmoins un élément essentiel pour entretenir des relations saines au sein d'une famille. Sujet de réflexion. Comment l'amour s'exprime-t-il le plus souvent dans votre famille? L'amour s'exprime-t-il dans les 5 langages de l'amour? Quelle est la fréquence de partage des expressions d'amour? Une étude non religieuse menée durant 25 années auprès de 14 000 foyers a révélé que de nombreuses familles, saines, prospères et équilibrées, issues de milieux culturels différents, présentent 6 caractéristiques communes. Dr. Nick and Nancy Stinnett, and Joe and Alice Beam, Fantastic Families, 6 Proven Steps to Building a Strong Family, Brentwood, Tennessee, Howard Books, 2008. Certaines de ces caractéristiques se rapportent directement aux différents langages de l'amour, soulignant ainsi l'importance des différentes formes d'expression de l'amour. Stinnett et Beam ont dressé la liste de ces 6 caractéristiques et de leurs descriptions respectives. 1. Le dévouement. Les membres des familles soudées sont déterminés à promouvoir le bien-être et le bonheur de tous les membres de la famille. Ils accordent de l'importance à l'unité familiale. 2. L'appréciation et l'affection. Les membres des familles soudées se montrent fréquemment reconnaissants l'un envers l'autre. Ils apprécient la qualité de leur famille. 3. La communication positive. Les membres d'une famille soudée possèdent de bonnes aptitudes à la communication et consacrent un temps considérable aux dialogues entre eux. 4. Le temps passé ensemble. Les membres d'une famille soudée passent des moments de qualité et du temps ensemble. 5. Le bien-être spirituel, qu'ils assistent ou non à des services religieux, les membres des familles soudées reconnaissent l'existence d'un être supérieur ou d'une puissance divine dans la vie. Cette conviction leur donne de la force et un but. 6. La capacité à gérer le stress et les crises. Les membres des familles soudées considèrent le stress et les crises comme des occasions de progresser. Application personnelle. Nous avons abordé plusieurs sujets au cours de ces deux leçons. Au début, nous avons évoqué l'amour sincère, puis nous avons identifié les 5 langages par lesquels on communique généralement l'amour. Nous avons défini la notion de réservoir émotionnel et la nécessité pour les membres de notre famille de recevoir notre amour dans leur langage primaire de l'amour. Nous avons expliqué comment les différences de personnalité au sein d'une famille peuvent nous aider à grandir dans l'amour. Ensuite, nous avons examiné en profondeur chacun des 5 langages de l'amour, en citant des exemples pour chacun d'entre eux, ainsi que les dommages causés lorsque ceux-ci sont négligés ou mal utilisés. Nous avons expliqué que les enfants tirent profit de réservoirs émotionnels pleins et qu'ils souffrent lorsque ces réservoirs sont vides. Nous avons abordé plus en détail la question de l'expression de notre amour à nos enfants. Enfin, nous avons noté le lien entre le respect des 5 langages de l'amour et les 6 caractéristiques communes des familles saines. Pour conclure ces leçons, nous évoquerons votre responsabilité personnelle, les actions que vous pouvez et devez poser en fonction des connaissances acquises. 1. Vous avez la responsabilité d'aimer votre famille. Vous devez être disposé à changer si nécessaire, sans avoir à attendre l'amour des membres de votre famille. Le véritable amour est proactif. Il s'exprime même si la personne aimée semble ne pas le mériter, car l'amour n'est pas basé sur le mérite de cette personne. 2. Vous avez la responsabilité de tout mettre en œuvre pour exprimer votre amour aux membres de votre famille de la manière la plus significative pour eux. Vous devez probablement fournir un effort supplémentaire pour manifester votre amour dans un ou plusieurs langages qui ne sont pas naturels pour vous. Au début, certaines de ces expressions d'amour peuvent vous sembler peu naturelles, gênantes ou ridicules. Apprenez à reconnaître les occasions de manifester votre amour aux membres de votre famille. Soyez sensible aux besoins éventuels des membres de votre famille à un moment donné. Voici quelques exemples pour chacun des langages de l'amour. Les paroles valorisantes. Dites-vous. Dites le nom du membre de votre famille est probablement en proie à des doutes sur les propos qu'il vient de tenir. Pourtant, ses propos sont exacts. Je dois prononcer une parole édifiante. Les moments de qualité. Posez-lui la question suivante. Veux-tu en parler? Arrêtez immédiatement toute activité, accordez-lui toute votre attention et montrez par votre langage corporel que vous l'écoutez attentivement. Les cadeaux. Lorsque vous lui remettez le cadeau, dites « J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi ». Les services rendus. Saisissez cette occasion et demandez-lui « Puis-je te rendre ce service ?» ou « Puis-je t'être utile ?» Le contact physique. Allez vers eux et déclarez « Tu sembles avoir besoin d'un câlin » en les enlaçant. 3. Vous êtes responsable de vos émotions. Dieu vous a créé avec la nécessité de nouer des relations saines avec d'autres personnes. Toutefois, indépendamment de la possibilité d'établir de telles relations, Dieu lui-même est votre satisfaction et votre soutien ultime. Votre famille n'est pas fondamentalement responsable de votre bien-être émotionnel. Dieu vous aime profondément, même si personne d'autre ne vous a jamais aimé. Il peut combler tous les déficits que vous avez si vous demeurez dans son amour. Jean 15, 9 à 11. Les membres de votre famille n'expriment peut-être pas leur amour dans votre langage primaire de l'amour. Peut-être ignorent-ils votre langage primaire de l'amour et vos besoins émotionnels. Peut-être n'ont-ils pas la motivation nécessaire pour vous exprimer leur amour d'une manière convenable pour vous. Vous pouvez leur expliquer comment vous souhaitez ressentir leur amour. Cependant, vous ne pouvez pas les obliger à choisir d'exprimer leur amour pour vous de cette manière. Il se peut que votre famille exprime son amour pour vous autrement. Si vous prenez note des langages de l'amour, vous remarquerez les façons dont votre famille vous exprime déjà son amour. Certes, vous ne pouvez pas les changer, mais vous pouvez choisir d'accepter leurs expressions d'amour et de leur témoigner votre gratitude. Prière. Père Céleste, merci pour la famille que tu m'as donnée. Aide-moi à apprécier chaque membre de ma famille à sa juste valeur et à entretenir de bonnes relations avec tous. Merci de m'avoir accordé l'occasion de réfléchir aux moyens de démontrer mon amour pour ma famille. Aide-moi à ressembler à Jésus, à donner de mon temps, de mon énergie émotionnelle et physique, et de mes ressources pour bénir et encourager ma famille. Aide-moi à avoir un cœur humble, qui me permettra de donner la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux miens. Aide-moi à prendre conscience des occasions qui se présentent à moi, d'exprimer mon amour pour chaque membre de ma famille. Tu m'as montré la nature du véritable amour. Tu attends le même amour envers ma famille que le tien envers moi. Je choisis d'aimer mon épouse et mes enfants d'un amour inconditionnel et sacrificiel. Accorde-moi la grâce et la miséricorde pour les nombreuses fois où j'ai échoué. Permets-moi de les aimer comme je le devrais. Amen. Où j'ai échoué. Permets-moi de les aimer comme je le devrais. Amen.